Bonjour chers auditeurs, voici l'émission Les Marches de la Foi, proposée par le service diocésain de formation continue. Catherine Mann avec vous cette semaine, je suis chargée de la formation biblique dans ce service. Et aujourd'hui à mes côtés, nous avons Madame Liliane Marais, bibliste. Bonjour Liliane.
Bonjour Catherine.
Et merci d'avoir accepté mon invitation pour nous parler de votre travail biblique actuel. D'abord, vers quoi s'est porté votre choix cette année ?
Et cette année, nous avons commencé au mois de septembre, à raison d'une réunion mensuelle, chez l'un ou l'autre d'entre nous, sur le livre des Actes des Apôtres, de Luc, comme chacun sait. Voilà.
Et pourquoi ?
Pourquoi les Actes des Apôtres ? Parce que nous avons commencé déjà avec ce même groupe, dont personne n'est parti d'ailleurs, il y a maintenant 2 ans, sur l'évangile de Jean, le 4e évangile. Or, ils ont découvert à travers cette lecture, qui n'a pas été simple, hein, parce que c'est pas facile d'entrer dans la démarche johannique, dans la mesure où c'est quand même le Christ ressuscité qui parle dans saint Jean. Bon, ils ont bien, intériorisé finalement et je trouve que c'est très important parce qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien, dans notre Église catholique en particulier, je ne sais pas si tu l'as remarqué Catherine, mais il y a parfois quelques réticences vis-à-vis de la résurrection. Je me souviens d'un...
Méconnaissance.
N'empêche, je me souviens d'une phrase d'un de nos prêtres diocésains, non des moindres, qui me dit, Liliane, ça me gêne de croire à la résurrection, mais j'y crois. Donc c'est déjà quelque chose d'intéressant, ça. Donc ils ont quand même, à force de réflexion, de travail, bien entériné cette évidence que le Christ est ressuscité, et donc ça allait de soi de démarrer quelque chose qui allait témoigner de cette résurrection après l'événement de Pâques. Donc automatiquement, ça s'est porté sur les Actes des Apôtres, c'est-à-dire la Pâque, ensuite l'Ascension, la Pentecôte et le démarrage de la première Église.
Voilà. Les témoignages concrets de gens qui ont vécu quelque chose.
Au premier siècle de notre ère, après l'événement extraordinaire de la résurrection du Christ Jésus.
Mais en même temps, en quoi est-ce que de lire ces textes, justement, qui sont du premier siècle, est vraiment utile à des gens d'un groupe aujourd'hui ?
C'est très utile, parce que ce sont des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche, qui sont tous plus ou moins engagés dans l'Église, sauf une, dont d'ailleurs j'ai apporté le témoignage, je pense que ça peut intéresser nos auditeurs quand même, que je pourrais te donner si tu veux. Et en même temps, ils font toujours, moi je ne les pousse pas parce que j'essaie du mieux de les faire parler les uns après les autres, tout en étant à l'écoute de celui qui n'a pas la parole facile. Ils font toujours un parallélisme entre cette première Église et son enthousiasme des premiers temps, l'Église jeune, et l'Église d'aujourd'hui.
Parallélisme ou une comparaison qui est à notre détriment ? Un vrai parallélisme ?
Une comparaison qui est un peu à notre détriment.
On a quand même un peu perdu de l'enthousiasme premiers temps.
Il s'est passé quand même de plus de 2000 ans. L'Église est étendue à travers le monde. Mais est-ce que je peux prendre un peu une métaphore ? Au début, c'était l'Église après la résurrection, l'Église dont nous parle Luc dans les Actes, elle était jeune à l'époque, c'était une belle jeune fille qui partait par vents et marées, c'est bien le cas de lui, puisque Paul s'en va sur la mer, et maintenant on a l'impression que...
Il y a une usure, oui.
Oui, il y a un peu.
Mais c'est d'où l'intérêt de lire les Actes pour redonner...
Oui.
La fraîcheur à notre foi.
La fraîcheur insalade, ça bute un peu. Parce que dans les Actes, alors que je leur ai rabâché, parce que je prépare un peu quand même, que Luc était l'historien du Nouveau Testament. Nous sommes d'accord.
Ah oui, tout à fait, oui, c'est celui qui a fait le gros effort.
Et alors il bute un petit peu sur tout ce qui touche au merveilleux. Voilà, par exemple, au tout début des Actes, je ne sais pas si tu te souviens, Catherine, il y a un épisode où il y a deux convertis à ce qui sera le christianisme, qui sont Saphir et Anani.
Et j'aime bien cet épisode.
Qui tombent raides sous le regard de Pierre. Et alors ça a passé mal. Mais enfin, c'est quand même une manière de dire les choses. Ça vient un peu à peu quand même. De même, l'histoire de l'ange du Seigneur qui pénètre dans la prison à Jérusalem et qui va délivrer Pierre et Jean sans que les portes soient fracassées.
Oui, il y a du miracle. Enfin, les miracles sont partout dans
oui,
le début du
bien sûr. Et puis, c'est une manière de dire les choses, si ça se trouve.
Ça existe peut-être, les miracles. C'est pas parce qu'on n'en fait pas et qu'on ne les voit pas qu'il faut éliminer ces possibilités.
Oui, on a quand même, ils sont quand même extrêmement cartésiens et rationnels. Et donc, dans cette affaire d'ange du Seigneur, alors moi j'ai la chance par rapport à eux parce que j'ai toute la lecture du Premier Testament. Donc, tout ce qui est de l'ordre du messager, de Dieu en quelque sorte incarné dans son messager, je l'ai dans ma tête et dans mon cœur. Tandis que eux, c'est plus difficile parce qu'ils n'ont...
C'est des débutants.
Ils n'ont pas beaucoup lu la Bible, ils ont fait l'évangile de Jean, c'est tout.
Ah oui, c'est relativement débutant en lecture biblique.
Oui, c'est pas très facile ça. Moi je préférerais, de loin, je bavarde, hein, je préférerais quelqu'un qui a la connaissance du Premier Testament, je le dis en passant parce que ça...
Mais en même temps, pour les débutants, souvent on leur propose de commencer par le livre des Actes parce qu'il y a quelque chose de concret dans les expériences vécues. Oui. Et que ça raccroche à l'humain de
base. Tout à fait. Mais n'empêche que moi, comme sans arrêt, je fais référence, je fais des flashbacks en arrière, c'est, je ne le fais pas. Ils n'ont pas l'idée d'aller chercher, par exemple, Ésaïe ou Ézéchiel. Peut-être que l'animateur biblique au pied nu que je suis peut leur apporter, tu vois.
Oui, c'est le manque à l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau, on le voit partout. Oui. C'est un apprentissage difficile.
Et un peu long.
Oui, comment prépare-t-on vos groupes bibliques?
Alors,
il n'y a que vous qui préparez, enfin tout le monde prépare
Tout le monde prépare, mais ils le font grâce au questionnaire que j'envoie auparavant.
D'accord.
Et ça, je remercie la technologie moderne.
Internet.
Parce que ça facilite bien les choses quand même. C'est-à-dire que je fais une préparation en essayant un petit peu. Je ne sais pas si tu te souviens, Catherine, j'aborde un peu le problème de notre amitié, de notre vie autour de ce bibliste que nous aimions tant, Jean Chevillard. Je fais un peu des papiers à la manière dont Jean Chevillard nous faisait découvrir des livres de la Bible lorsque nous étions avec lui, tu te souviens? Donc je fais une sorte de questionnaire, et alors ça leur permet de travailler dessus et de ne pas arriver comme ça sans avoir lu le texte, parce qu'ils sont obligés de...
C'est toujours le petit problème et du manque de temps aussi, on n'a pas toujours le...
Voilà.
Le courage de prendre le temps de s'asseoir et d'ouvrir sa Bible. Est-ce que votre groupe fait de la publicité, entre guillemets, et
non.
cherche de nouveaux
participants ? Non, parce que alors c'est toujours l'inconvénient des groupes bibliques. Il y a à peu près deux années pleines que nous fonctionnons ensemble. Donc, se sont créés des liens d'amitié. On est devenus complices. Et alors, ce qui me gêne beaucoup, c'est que si quelqu'un arrivait maintenant, j'ai un peu peur que cette espèce de... Comment, fusion amicale, parce qu'on est 10.
Communion.
ne gêne celui qui pourrait arriver. Voilà.
Ou vice-versa, parce qu'en se penchant sur les problèmes du nouveau, on peut casser un peu cette communion, encore qu'on peut.
Alors là donc, c'est un atelier biblique type, c'est-à-dire que je fais une préparation, on se rend compte chez l'un ou chez l'autre. Alors, il y a une chose que je voulais te dire et que, pour moi, a toujours existé. Hein. J'ai accepté de faire avec eux cette lecture, animation, à condition d'introduire un temps de prière. Parce que je me sens, malgré mes airs un peu fanfaron, je suis très angoissée, finalement, et très peu sûre de moi. Et alors, chaque fois qu'on commence, c'est-à-dire ça dure deux heures et demie, j'invoque l'Esprit-Saint. Enfin, en général, c'est moi qui le fais. Mais on dit ensemble une prière commune, la plus connue, la plus facile, c'est encore notre Père. Et alors à partir de là, je ne sais pas, moi je sens que ça va, quoi. Je suis pas seule, je ne suis pas seule.
Mais c'est un bon groupe où vous arrivez tous en même temps, parce que souvent dans les groupes bibliques, c'est les retardataires qui empêchent la prière.
Il y a parfois.
Et on fait plutôt
il peut y avoir des incidents, mais c'est, en général, ce n'est pas volontaire. Par exemple, la dernière fois où nous sommes réunis, c'était mardi dernier. Il y en a un qui vient en vélo d'assez loin, et malheureusement, en montant la courtille, il s'est fait renverser par...
Oh, quelle horreur! Le vélo,
donc, moi, il n'a pas eu de trauma grave, il s'est relevé, ramassé, mais son vélo était fichu, donc ça a retardé quelque peu.
Voilà. Combien êtes-vous au...
10.
Oui, c'est une bonne mesure.
Et alors, c'est un groupe mixte où il y a à peu près autant d'hommes que de femmes. On est, 5 hommes, 5 femmes. Et alors, intéressant, je remarque que, paradoxalement, les hommes sont peut-être un peu plus, comment dire, timides.
Timides dans l'expression?
Oui, dans la prise de parole.
La prise de parole.
Je trouve que les femmes qui sont dans ce groupe sont relativement bavardes. Il faut dire qu'elles sont engagées plus dans l'Église, aujourd'hui.
Oui, donc plus habituées à prendre la parole.
Voilà. Il y en a une dont peut-être je pourrais te donner le témoignage.
Oui, avec plaisir.
Qui n'est pas dans l'Église, mais qui est en recherche, en quelque sorte. Donc elle a tout exploré. Et elle a en particulier le bouddhisme. Elle a même été voir du côté de l'islam.
C'est bien, c'est l'interreligieux intégré.
Elle s'est aperçue, si tu le veux bien, je peux dire, elle s'appelle Denise. Elle me dit ceci. Je fais partie avec toi du groupe d'études des Écritures que j'apprécie infiniment. Je n'appartiens à aucune église et ne participe à aucun culte. Mais je m'intéresse au message de Jésus-Christ qui me semble être le seul capable de réaliser l'humanité, l'amour étant la seule solution. Solution possible entre les hommes pour parvenir à une vie harmonieuse où règne la justice, l'égalité, le respect et tout ça nécessaire à la vie. J'éprouve le besoin d'étudier ce message et d'en comprendre en profondeur toute la portée afin de pouvoir essayer de le mettre en pratique. Et bien que non catholique, je trouve ma place dans ce groupe où tu m'acceptes et où les autres aussi acceptent ma différence. Voilà l'essentiel de mon témoignage.
Mais je trouve que c'est tout à fait important qu'il y ait des gens extérieurs qui puissent étudier sans se sentir agrippé par l'obligation.
Et alors je dois dire qu'elle est très précieuse. Parce qu'elle est très intériorisée, et quand elle parle, elle dit des choses.
C'est utile pour tout le monde.
Oui.
Bon, écoutez, chers auditeurs, malheureusement, notre temps d'antenne arrive à son terme. Mais vous voyez qu'on peut trouver de grands enseignements dans ces groupes bibliques, et je vous conseille autant que possible d'en rejoindre un.
Il y en a un certain nombre dans le diocèse. Voilà.
Donc je vous dis au revoir chers auditeurs et à très bientôt. Merci beaucoup Liliane.
Merci Catherine et la bonne année.
Amen.